Chers auditeurs et chères auditrices, nous continuons notre série concernant Jésus-Christ, la lumière, jusqu'au retour de Jésus-Christ, le Messie. Nous aurons quelque chose de spécial. Encore pour un moment. Si vous écoutez la suite de ces études, je peux vous assurer d'une chose certaine, que vous ne serez plus jamais les mêmes. La Bible dit, je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au troisième ciel, et je sais que cet homme fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses. 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 2 à 4. La nuit avant d'être crucifié, Jésus a dit à ses disciples, « Je vais vous préparer une place. » Cela fait plus de 2000 ans qu'il y travaille et la prépare. Quand on sait qu'il était vraiment auprès du Père lors de la création de ce monde, nous comprendrons la magnificence de sa création au ciel qui avait été destinée à ceux qui lui appartiennent. Oui, il revient bientôt. Que le Saint-Esprit nous prépare et nous aide à être dignes de cette belle demeure qui nous attend là-haut. Et vous, qui avez perdu des bien-aimés qui sont maintenant auprès du Seigneur, puissiez-vous être consolés et réconfortés par ce récit de Marietta, le voyage au ciel. Ce récit a été édité par Gordon Lindsay, qui a écrit lui-même plus d'une centaine de livres d'études bibliques. Il a édité ces études que vous allez entendre pour Christ for the Nation. Du point de vue doctrinal, son message est en complet accord avec la révélation de l'Écriture sainte quant à la condition de l'homme après la mort. Ce récit apporte de nombreux détails complémentaires décrivant clairement ce qui se passe lorsque l'esprit quitte le corps. Inutile de souligner que nous sommes en présence d'un sujet extrêmement solennel auquel l'auditeur et l'auditrice fera bien de prêter attention. Puisse le message de Marietta être un solennel avertissement à tous ceux qui avancent comme moi je l'ai fait, hélas, sans prendre garde, sur le chemin qui mène à la mort, en recherchant le bonheur dans les plaisirs illusoires de ce monde impie et pécheur, de peur que lorsqu'ils quitteront leur corps, ils ne soient entraînés par la loi de l'attraction du mal et en conséquence plongés dans l'abîme des ténèbres, lieu où l'espérance n'existe plus. Le fait que le salut ne soit offert par aucun autre moyen que le suprême sacrifice du calvaire, et cela n'a jamais été aussi magistralement démontré en dehors de la Sainte Bible que par Marietta dans ses scènes au-delà de la tombe. Vous savez, il y aura encore des personnes avant le retour du Messie qui vont avoir le bonheur que Christ va peut-être donner à certains encore des lumières sur l'au-delà pour compléter de ce que nous savons déjà. Mais tout cela a un sens, et ce n'est pas pour rien. Critiquer, c'est toujours possible. Dénigrer également. Réfuter encore plus. Mais essayons d'écouter. Essayez d'écouter avec un esprit déchargé de toute critique, tout en sachant que nous avons le droit d'analyser ces mêmes recommandés et de comparer avec les Saintes Écritures. Mais ne soyons pas d'une façon exagérée négatifs en tout. Je reviens à Marietta, sa mère et ses sœurs étaient des membres très fidèles de l'église baptiste dont le pasteur Ige Scott était leur pasteur. Cependant, le doute semble tenir Marietta en dehors de l'espérance glorieuse sur laquelle, confiante, s'appuyait toute sa famille. Mais lorsque elle revint à elle, après ces 9 jours, elle éprouvait une joie et une assurance indicibles à cause des choses qu'elle avait vues et entendues. La bouche remplie de louanges, le cœur inondé de reconnaissance envers Dieu et son immense amour, elle attestait que tandis que son corps reposait comme mort, son esprit avait visité le monde des choses éternelles. Elle avertit ceux qu'elle aimait qu'elle ne resterait pas très longtemps parmi eux, mais qu'elle allait repartir pour jouir de la merveilleuse demeure préparée pour elle dans le royaume de son Père céleste. Elle vécut après cela 7 mois et elle mourut au moment qu'elle avait annoncé d'avance. Elle savait si précisément quand elle partirait que lorsque l'heure vint, elle choisit un cantique qu'elle commença à chanter avec sa famille, et c'est pendant ce chant que son âme prit son envol, délicatement, sans attirer l'attention. Certainement, cet hymne entonné au milieu des siens sur la terre, elle acheva de le chanter au milieu des anges dans le ciel. Chers auditeurs et chères auditrices, voici donc le récit de son voyage au ciel. Il est impossible de transmettre à un être humain par le moyen de ses seuls sens une idée exacte des scènes dont j'ai été le témoin pendant que mon corps reposait inanimé. Aucun moyen de communication n'existe qui soit assez fidèle pour rendre le tracé parfait de ce qui est invisible et reste incompréhensible aux mortels. Car le langage humain ne permet pas de transmettre la beauté et la perfection des paroles célestes. Il ternit la pureté des pensées qu'il essaye d'interpréter. Vous me pressez de raconter mon histoire, mais le sentiment de mon incapacité face au but à atteindre est pour moi une véritable souffrance. Marietta aspire à connaître ce qui est immortel. Elle a dit « Il y avait longtemps que j'avais découvert la vanité des choses terrestres, les imperfections des institutions humaines, la valeur toute relative des croyances ou sentiments religieux, ainsi que l'absence de paix véritable dans l'âme troublée de l'homme. Je désirais ardemment en savoir davantage sur la réalité de cet état que les mortels appellent l'immortalité. Peu à peu, à force de méditer, cherchant laborieusement à comprendre ce que est l'âme et à quoi elle aspire, les choses extérieures perdirent pour moi leur intérêt et mon être intérieur gagna en force et en activité. Son esprit quitte maintenant son corps. Alors des choses étranges, inconnues, m'apparurent. Je ne savais pas encore que j'avais quitté ce monde de chagrin et de lutte. Je ne comprenais pas que s'ouvrait ma vision spirituelle, que ce qui se présentait à moi de façon imprécise était une réalité, oui, l'aurore d'une vie immortelle. Pourtant, il me sembla me détacher d'une condition primitive, être plongé dans une mer sans rivage, traverser des contrées inexplorées, tout cela en une vision incertaine et comme flottant dans l'air au-dessus d'un gouffre démesuré. Livré à lui-même, seul, envahi d'une sorte d'inquiétude, mon esprit craintif, vacillant, aurait peut-être souhaité revenir au pays des ombres, d'où il venait de sortir. Mais, un ange vient à sa rencontre. À demi consciente de ma condition, les pensées mêlées de rêves, je me surpris à demander « N'y a-t-il personne ?» qui, familier de ce voyage où je suis entraîné, puisse me guider dans mon mouvement au travers de cet espace sans pesanteur. Lorsque, dans le lointain, au-dessus de moi, j'aperçus une lumière qui descendait, ayant l'apparence d'une étoile scintillante. À mesure qu'elle approchait, le halo lumineux qui la précédait éclairait tout autour de moi et mon être exténué reçut une vie neuve, venant de cette gloire vivifiante et irradiante. J'ai commencé à me mouvoir doucement, à monter de plus en plus près de cette source de lumière qui avait touché mon esprit, le faisant tressaillir de joie. En l'approchant, je pus distinguer ses traits. Il me parut être comme une créature humaine, mais glorieuse. Graduellement, le visage devint plus précis, jusqu'à ce que je voie, emplissant l'atmosphère, devant et au-dessus de moi, un ange dont la splendeur surpassait la plus haute conception de ce que peut être rêvé en beauté une pensée d'homme. Cette forme plus aimable qu'aucun langage ne pourrait la dépeindre venait à moi d'un mouvement silencieux. Dans sa main gauche, une croix, symbole d'humilité, d'innocence et de grâce rédemptrice, et dans sa droite, un rayon de lumière pure. Il en toucha mes lèvres, et aussitôt, comme par la flamme d'un amour très saint, m'envoyit un principe immortel, un principe immortel qui diffusa son esprit vivifiant à travers tout mon être. Il s'éveilla alors harmonieusement en moi un nouvel ordre de sensations, amenant un désir de communion avec la présence angélique. Je la contemplais, souhaitant connaître son nom, quand voici elle parla. « Marietta, tu désires savoir qui je suis. Dans la mission que je remplis auprès de toi, mon nom est l'ange de la paix. Je suis venu pour te conduire là où se trouvent ceux qui, comme toi, viennent de la terre. Si tu veux recevoir de l'instruction, suis-moi. Mais d'abord, regarde ce que tu es là-bas, dans le monde. Alors, à une très grande distance, et comme à travers une sombre nuée, j'aperçus mon corps malade et mortel. Autour de lui s'affairaient mes bien-aimés, inquiets, essayant tous les moyens possibles pour le réveiller, mais en vain. « Contemple, dit mon céleste guide, un panorama de la vie humaine. Là, des familles brûlant d'amour pathétique luttent pour garder du brisement le vase qui se craquelle, pour empêcher la lampe vacillante de s'éteindre. Là, de la jeunesse aux cheveux déjà blancs, déferle sur l'humanité la marée de la malédiction. Des cœurs aimants sont séparés. La mort ôte devant leurs yeux l'être tendre qu'ils chérissaient. La fleur qui s'ouvre, apportant sa gaieté, replie bientôt sa corolle épanouie, desséchée par le doigt de la mort. Là, les esprits, tels des fantômes dans un rêve, flottent en une atmosphère de félicité chimérique. Examine les multitudes en mouvement, tandis que la vision s'étend. La terre, avec ses millions d'êtres fourmillants, n'offre qu'un spectacle mêlé d'espoir qui se lève, d'ambition, de conflit et de destruction. Ses habitants sont terrifiés par l'approche et par la crainte de la mort qui est cette faucheuse impitoyable. Le temps mesure avec rapidité les heures fugitives de l'existence humaine. Les générations succèdent aux générations. Je pris la parole et je lui dis « Ces pensées sont justement la cause du fardeau de mon esprit jeune et sans expérience. Tous ceux que tu m'as montrés sont devant mes yeux. Ils passent comme les gouttes de rosée. C'est la raison de ma souffrance. Peux-tu me dire dans quelle partie de l'univers ces êtres trouvent un lieu de repos lorsque leur esprit s'en va? Peux-tu lever le voile qui les cache à la vue des mortels? Peux-tu me conduire là où ils demeurent? Oh, dis-moi, ont-ils un chez-soi? Ont-ils un lieu? M'est-il possible de rejoindre ceux que j'aime, là où ils ont été emportés? L'ange lui répond. Désires-tu connaître la condition de ceux de ta race lorsqu'ils quittent la terre et voir toi-même quelles sont les conséquences des habitudes et des choix de l'homme perverti? Dans une certaine mesure, tu le peux, mais sache d'abord qu'il y a diversité de situations. Puis, m'invitant à lever les yeux, l'ange me demanda « Que vois-tu ? » Obéissant, je regardais en haut et contemplais avec émerveillement la bordure d'un cercle brillant, d'un éclat qui surpassait de loin la force de notre soleil en plein midi, de la lumière pure, rayonnante, inonda entièrement les cieux d'où elle venait. Là se trouvent beaucoup de ceux que tu souhaites voir, dit l'ange, vivant dans l'harmonie, vêtus de vêtements blancs et légers. Ici ne tombent pas les ombres de la nuit. La mort et l'obscurité n'ont point de place ici. Ceux qui jouissent de ce séjour béni ne souffrent plus, ni péché, ni douleur ne viennent troubler le calme de leur repos. Mais tu en connaîtras davantage un peu plus tard. D'autres scènes moins heureuses doivent d'abord t'être présentées. Marietta, tu n'ignores pas que la nature humaine comporte différents caractères et quand l'esprit se sépare de son habitation terrestre provisoire, cela ne produit aucun changement dans sa propre nature. Puis touchant mon front, il me demanda encore « Que vois-tu ?» Mes yeux ouverts sur une autre scène virent un nombre incalculable de formes se débattant dans l'agonie de la mort. Certains en des palais royaux reposant sur une couche mortuaire richement ornée de draperies somptueuses, d'autres dans d'humbles chaumières, d'autres encore dans de sombres prisons, dans des repères du vice et de l'iniquité, ou dans des forêts solitaires, dans des déserts arides, ou dans des eaux profondes et impénétrables. L'un expirait sous un soleil brûlant, un autre périssait sur l'éperon neigeux d'une haute montagne. Là, quelqu'un mourait entouré d'amis affectueux, rempli de tristesse. Ailleurs, c'était dans la solitude et l'oubli. Je vis encore des personnes tombant sous la main d'assassins, puis des soldats sur le champ de bataille, écrasés sous les chars de guerre. Ainsi me fut révélé, là où le temps et l'éternité se rejoignent, la réalité d'une indescriptible misère. Ceci, me dit mon guide, n'est qu'une faible part des conséquences de la violation de la loi de Dieu. Touché à nouveau par la lumière qui jaillissait de sa main droite, je pus apercevoir ce que est l'immortalité pour ceux qui quittent ces vases d'argile. Ils entrent dans les lieux d'éternité pour découvrir les réalités nouvelles et insoupçonnées. Autour de chaque personne qui meurt, des esprits se rassemblent, divers dans leur apparence et divers dans leur mouvement. Au-dessus des champs de bataille se groupaient les esprits des morts, et selon la nature morale de chacun d'eux, les esprits qui leur correspondaient guettaient leur arrivée dans le monde invisible. Cette relation est effective pour toutes les classes et conditions des hommes, étant donné que cet espace intermédiaire, ce vestibule, est fréquenté par des êtres variant dans leur caractère, allant du démon le plus souillé et méchant aux anges saints et resplendissants, envoyés par milliers aux portes de la mort en messagers de Dieu. de toutes les catégories, ceux qui sortent de leur enveloppe physique se trouvent attirés et se groupent par affinité avec ceux dont le caractère leur ressemble. Les natures discordantes et non sanctifiées, subissant l'attraction d'éléments semblables, entrent en des régions couvertes d'épais et sombres nuages. Ceux, au contraire, qui ont aimé le bien et ont choisi la pureté, sont introduits par des célestes messagers dans la sphère glorieuse qu'ils entrevoient au-delà du voyage. Fascinés par les réactions saisissantes des esprits humains, alors qu'ils se mêlent aux multitudes incorporelles, ce qui se passait autour d'eux leur était soudain dévoilé. Alors, je commençais à m'interroger. Ce que je voyais, était-ce la réalité ou seulement des images impressionnant mes pensées dans un état de songe? Devinant ma question, mon guide me prit la main et me dit « Ceux qui se meuvent autour de toi, venant comme toi de la terre ou sortir de leur demeure périssable, commencent ici une existence nouvelle qui est une réalité. Leur stupéfaction est due à la brutalité de leur mutation. Ils se trouvent arrachés à un monde de valeurs extérieures et brusquement sensibilisés aux réalités spirituelles. En même temps, ils reçoivent la connaissance immédiate du rapport de cause à effet. Il t'en sera révélé davantage sur leur état et leurs conditions à mesure que progressera ton instruction. Quittons cette scène maintenant et élevons-nous pour atteindre le monde de clarté. » Ce disant, l'ange m'emporta dans une nuée éblouissante. Quittant ce monde intermédiaire, il me toucha de nouveau et je jouis d'une vision infiniment plus vaste. Regarde l'armée des étoiles que l'on ne peut compter. Observe le mouvement des astres, les soleils et les systèmes solaires qui évoluent dans le silence et l'harmonie. L'espace incommensurable est occupé, peuplé d'univers, ouvrage d'une sagesse infinie. Ils ont pour habitants des êtres saints, heureux et immortels, quoique variés dans leur degré de développement et dans la finesse de leur spiritualité. Mon guide me prit à nouveau la main, et voici que au-dessus de moi, autour de moi et à une grande distance, passe et repasse à la vitesse de la pensée des esprits brillants de lumière. Ceux-là sont les anges serviteurs, dit mon guide. Leur suprême bonheur est de recevoir une mission de miséricorde. Leur demeure est auprès de celui qui est éternellement béni. Ils sont gardiens protecteurs et messagers envers ceux de conditions inférieures à la leur. Comme je les observais, montant et descendant, l'un d'eux m'approcha. Il tenait dans ses bras, le serrant sur sa poitrine angélique, l'esprit d'un petit enfant. À son passage, je vis que le tout petit blottit là, comme dans un nid, reposé en une sécurité tranquille, conscient même d'être à l'abri dans les mains de son protecteur. « D'où vient-il ? » demandai-je. L'ange répondit, « Je l'ai reçu d'une maman au cœur brisé, devant la barrière de la mort, lorsque l'étincelle de vie s'éteignit en lui, dans le monde extérieur. Je l'emporte maintenant dans la sphère des tout-petits, au paradis de paix. » Suivant l'ange qui avait la charge du bébé, nous nous déplaçâmes silencieusement dans la même direction et je ne vis plus rien de ce qui se passait au-dessus. Absorbé que j'étais par la lumière éclatante venant de la sphère vers laquelle nous nous dirigions, nous nous trouvâmes bientôt dans une plaine avec des arbres chargés de fruits. Dans ce bocage ombragé, je fus ravi par le chant des oiseaux, par les notes délicieuses de leur gazouillement. Nous fîmes une pause. Supposant être sur quelque site terrestre, je demandai son nom. Mon guide répondit, « Les arbres, les fleurs, les oiseaux sont là, dans l'espace qui entoure le paradis. Ils ont une pureté, une délicatesse telle que l'œil terni de l'homme ne peut les contempler. Leur musique est si douce qu'elle est inaudible à son oreille endurcie. Les créatures de forme plus grossière ne conçoivent pas l'existence d'une nature aussi raffinée. Séparée de ton corps, il t'est donné de saisir par tes sens spirituels cette réalité du monde céleste. Pourtant, ce que tu vois en ce moment n'est qu'un contour tout extérieur au domaine des esprits. Ces prairies en fleurs, ces gracieux chants d'oiseaux, ce sont que le premier degré de ce qui environne la demeure des sanctifiés, car c'est ici que les rachetés quittant la vallée de l'ombre de la mort sont d'abord introduits par leur protecteur angélique. Il leur enseigne les rudiments de ce que est la vie immortelle. Là, ils reçoivent des leçons instructives en relation avec leur demeure céleste et découvrent la vraie nature de l'amour pur gardé du péché. Là, on voit des amis déjà avancés dans leur stature spirituelle laisser une activité plus élevée pour venir accueillir l'esprit d'un bien-aimé à son arrivée dans cette entrée du monde spirituel. Là, dans ces parvis éternels, les esprits entonnent ensemble, pour la première fois, le cantique de la grâce rédemptrice. Ils se reposent dans la douceur céleste, respirant l'air pur du paradis. Se reposer au ciel n'est pas nécessaire comme nous le comprenons. Tout en écoutant ce discours étrange qui, en même temps, me réjouissait, mon cœur brûlait du désir de revoir des amis qui avaient quitté la terre depuis longtemps. L'ange me dit, « Tu ne vas pas attendre longtemps. » puisque ta mission présente est d'apprendre à connaître les conditions dans lesquelles vit un enfant de Dieu qui a quitté la terre. Quand ton séjour dans le monde sera achevé, tu pourras ici te retrouver dans l'enfance de ton état immortel avec les tiens. Tu seras enseigné afin de te préparer à entrer dans les demeures célestes supérieures, lieux de gloire extraordinaires qui sont réservés aux élus. Puis il étendit la main, coupa une rose et en toucha mes lèvres, et me disant de la respirer. Alors, une vision plus pénétrante me fut donnée, et je vis autour de moi, de tous côtés, parmi les fleurs, des êtres innombrables, pleins de joie. Je demandai la permission de me joindre à eux, mais mon guide s'éleva, m'entraînant à travers des forêts de plus en plus pures et belles. Dans le lointain, j'aperçus un dôme de lumière. Cela, dit mon guide, c'est la porte d'entrée de la cité de paix, là où ton Rédempteur se manifeste de façon visible. C'est là que demeurent les saints et les anges. C'est là que résonnent sur les harpes d'or les instruments à cordes avec des lyres au milieu des Alléluia, le chant de la rédemption. C'est un chant de paix, celui de l'immortel amour. Comme nous approchions, un groupe plus glorieux s'assembla autour du portail et quelqu'un au premier rang de ce groupe s'adressa à mon guide dans un langage inconnu de moi. Un portail de jaspe, incrusté de diamants, s'ouvrit et deux anges me prirent par la main et me conduisirent, toutes émues, vers le portail intérieur qui donnait directement dans le pavillon de lumière. Alors, je me souviens de mon état naturel, qui n'était pas en accord avec toute cette lumière. Mes péchés, mes doutes, ma rébellion affluèrent en flot à ma pensée, et se sentant non préparé en présence de tant de gloire, mon esprit défaillit en moi. Alors les anges me prirent dans leurs bras et me portèrent. Ils me portèrent à travers le portail au pied d'un être d'une gloire plus éclatante encore. Il portait sur sa tête une couronne de pure lumière et ses boucles dorées tombaient sur ses épaules et aucun mot ne saurait exprimer sa extraordinaire beauté. « Marietta, me dit un des anges, regarde ton Rédempteur. Pour toi, oui pour toi, il a souffert dans son incarnation, pour toi, hors des portes, seul, affoulé au pressoir, il a expiré. Bouleversé par tant de bonté, de tendresse et d'amour, je m'inclinais, ressentant comme une aspiration à être digne de l'adorer. Mais, étant dans sa main, il me releva, et d'une voix qui remplit mon âme d'une inexprimable délice, il dit « Bienvenue, mon enfant, membre d'une race déchue, entre pour un temps par le portail des rachetés, et s'adressant à ceux qui nous entouraient, il ajouta « Recevez-la dans votre communion spirituelle. » Alors toute l'assemblée qui adorait se leva comme à l'appel d'un saint amour et m'accueillit en tant qu'héritière de la grâce. Puis, avec des instruments bien accordés, le cœur immortel chanta pour mon esprit l'hymne de bienvenue. Digne est l'agneau qui nous a rachetés. Exaltez son saint nom, vous les sanctifiés, et vous les chérubins qui adorent dans les lieux célestes. Exaltez-le, adorez-le, car il nous a relevés, nous, louerons donc son nom. Le nom du Dieu Très-Haut. La musique de ce chant, douce et mélodieuse, montée comme la voix de grandes eaux, remplissant le dôme. Et quand il s'arrêta, l'écho s'en répandit dans le lointain, porté de vague en vague, dans la sainte atmosphère. Chaque mesure, telle une vague gracieuse, glissait sur cette mer spirituelle. J'avais l'impression d'être porté sur cette douce ondulation, lorsque venant de l'innombrable compagnie, quelqu'un s'approcha de moi, m'appelant par mon nom. La musique ayant cessé, je fus très ému de me trouver dans les bras de quelqu'un que j'avais aimé de tout mon cœur étant enfant. Je me laissai tomber dans ses bras, tandis que, avec la tendresse d'une sœur, elle me dit « Bienvenue, sœur en esprit, bienvenue pour un temps dans notre lieu de paix. » « Oui, bienvenue trois fois !» ajoutèrent un millier de voix, et je me trouvai entouré de tous ceux que j'avais aimés, tous pressés de me saluer, de m'accueillir et de m'embrasser. Autour de nous, dans cette salle spacieuse, j'aperçus des sièges disposés comme dans un amphithéâtre. La beauté du lieu était indescriptible. Quel repos y régnait. Au milieu de ceux qui étaient là, je vis plusieurs visages familiers d'anciens amis. Je les reconnaissais. Cependant, ils n'étaient pas tels que je les avais connus sur la terre. Chacun étant un être spirituel, dissocié de la forme corporelle qu'il avait eue. Aucun mot ne pouvant correspondre à une exacte description, je vais rapporter une faible image de ce que je ressentis. Leur nature semblait n'être que pensée, lumière, gloire, adoration, amour immense et pur. Tous unis dans un service sacré, leur expression reflétait la joie du ciel. Ils conversaient dans une parfaite liberté, mais leur langage n'était plus celui des humains. Ils se parlaient et l'on n'entendait rien. Ils communiquaient par leurs pensées d'esprit à esprit, et ils se comprenaient. Des réflexions concernant leur vie céleste, passés de l'un à l'autre, et j'appris bien vite que là-haut, plus rien n'est caché. Harmonie de leur âme, de leur désir, de leur conversation, harmonie dans la mélodie et des chants d'adoration, leur vie, leur amour, leur expression, tout n'était que harmonie et immense bonheur. De nouveau, leurs voix, à l'unisson, entonnèrent un hymne avec les harpes en l'honneur du Créateur. Mon guide me pressait de joindre ma voix à ce cantique plein de la vie des rachetés, mais j'en fus incapable, absorbé que j'étais dans la contemplation de ce glorieux havre de paix, un havre de paix incroyable, après lequel j'avais tellement soupiré. Quand le chant sacré s'acheva, mon guide toucha de nouveau mes lèvres de son rayon de lumière et il m'accorda d'être comme un membre de cette sainte compagnie. L'un après l'autre, chacun s'approcha pour me donner un saint baiser, me serrer dans ses bras. Comme pour une âme nouvellement née, il m'entourait de tendres attentions, non sans avoir levé un regard plein de reconnaissance vers le Rédempteur, vers le Seigneur. Et est-ce bien là que je me posais la question? Est-ce vraiment bien là, le ciel? Et ces âmes bienheureuses, sont-elles bien celles qui se trouvaient autrefois en plein conflit dans leur vase d'argile? Ces visages rayonnant de la gloire de cet adorable séjour, sont-ils l'expression spirituelle des gens que j'ai vus jadis ployant sous les soucis de la vie? Et encore, où se sont envolées les années et l'usure de votre corps? Vous, mes parents âgés, vous qui m'avez enseigné sur la terre, combien de fois vous ai-je vu vous donnant tant de peine afin de faire saisir à ceux qui vous écoutent une partie au moins de ce que vous aviez compris de la vie éternelle? J'ai souvent deviné en vous un réel chagrin quand vous réalisiez que pour la plupart de vos auditeurs, vos efforts étaient presque vains. Alors j'ai reposé ma question. Le ciel peut-il être empli d'une telle gloire? Ne suis-je pas en présence d'une image beaucoup plus sublime que réelle? L'homme, enfin, s'il arrive qu'il atteigne ce séjour béni, peut-il vraiment se réchauffer au rayon de soleil d'un si suprême bonheur? Oui, voyez et soyez-en assurés, les pensées les plus élevées de l'homme ne sauraient approcher la réalité des délices de ces célestes scènes. Après cela, je vis s'approcher une personne que j'avais connue sur terre, courbée et tremblante, s'appuyant sur une canne. C'était quelqu'un que je connaissais bien, très malade et très âgé, dont les cheveux blancs racontaient l'histoire d'une vie de misère. Son esprit se tenait devant moi dans l'éclat d'une jeunesse immortelle. Plus de bâtons ici, plus d'allure maladive, mais lumière, santé et vigueur. Cet esprit me parla ainsi. Contemple en ma personne l'efficacité de la grâce rédemptrice. Ce cœur était jadis, il était le foyer des pensées impures. Ses mains ont servi de péché. Ses pieds descendaient rapidement le chemin large, menant à la détresse et à la mort. Chers amis qui êtes à l'écoute, je faisais partie de ceux-là. Ce corps qui était le mien, dans lequel j'ai vécu, était rongé par la souffrance et la corruption, et se mourant de maladie. Mais aujourd'hui, tout en moi salue ce saint nom, Emmanuel. Par lui, j'ai été racheté, j'ai été revêtu d'un vêtement de lumière et je vis une éternelle jeunesse. Un chant s'élève de mon cœur. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô sépulcre, où est ta victoire? Digne est l'agneau qui s'est offert lui-même pour me racheter. Oui, il est digne. Oh, apportez-lui l'adoration, vous, multitude innombrable, foule qu'on ne peut compter. Exaltez-le, adorez-le, vous toute intelligence. Oui, que l'univers entier l'adore. Adorez-le car il est seul digne de recevoir les cantiques de louange de toute la création. Après cela, parut un groupe d'enfants qui, main dans la main, passaient chantant de leur voix fraîche. À lui soit la louange, car c'est lui qui a dit sur la terre « Laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi. » Chers auditeurs et chères auditrices, nous terminons aujourd'hui cette étude et nous poursuivrons, Dieu voulant, demain matin, par la gloire de la croix. Chers amis, parfois, le Seigneur me donne quelques pensées pour vous transmettre et quelques enseignements et encouragements. Oui, le Seigneur, votre Sauveur, ne le quittez jamais. Suivez bien le sentier dans lequel il vous a demandé de vous engager. Faites-vous très humble devant lui et gardez ses commandements. C'est le secret d'une paix parfaite. Jésus-Christ est avec vous pour vous dispenser la force dont vous avez besoin. Avancez donc sans crainte. Croissez dans la grâce et dans la connaissance que vous devez avoir de lui, votre maître et votre ami. Comptez pour rien toute la science de l'homme au regard de la sagesse qui est la sienne et qu'il vous confère, lui, votre Seigneur. Apprenez à aimer et laissez-vous instruire. Vous êtes appelé à faire beaucoup, oui, beaucoup pour son royaume. Tendez donc à la perfection. Passez au crible vos mobiles. Rejetez résolument tout ce qui est indigne d'un disciple. Arrachez cela de votre vie. C'est gratuitement que vous êtes pardonné. Alors, pardonnez-vous-même gratuitement et sans calcul et au-delà de toute attente. Chers amis, nous allons terminer maintenant par la prière. Prions. Seigneur, ouvre nos yeux pour qu'ils voient. Ouvre nos cœurs pour qu'ils reçoivent. Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Délivre-nous, Seigneur, Dieu de vérité. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints. La fumée des parfums monta, avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Dieu est lumière, et il n'y a point en lui de ténèbres. Jésus-Christ est la lumière du monde, et ceux qui le suivent ne marcheront pas dans les ténèbres. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme dès le commencement, aujourd'hui, toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen. Chers amis, je dis merci merci à Yahvé l'Éternel, El Shaddai, à mon Papa Céleste, pour Jésus-Christ qui m'a sauvé. Oui, je faisais partie de ceux qui étaient totalement perdus. Aucun espoir. S'il n'y avait pas eu Jésus-Christ, je ferais partie de ceux qui sont pour l'éternité dans les souffrances terribles de l'enfer. Mais Jésus-Christ est venu. Il a eu compassion pour une grande quantité de ceux comme moi qui étaient perdus. Comme le brigand à la croix, au dernier moment, il a compris. Il a compris que c'était solennel et il a accepté la main tendue du Sauveur et qui est devenu son Seigneur. Oui, nous devons être tous reconnaissants. Et je dis merci parce que le Saint-Esprit m'a guidé, m'a inspiré, car sans le Saint-Esprit, je vous avoue que ce serait impossible de faire ce que je fais à 88 ans. Impossible. Uniquement possible par la présence de l'Esprit Saint, par la présence de Jésus-Christ dans mon âme, dans mon cœur et dans mon esprit. Alors disons tous merci. Soyez bénis. Soyez bénis. Je vous aime de tout mon cœur. À demain matin, Dieu voulant. Au revoir.